À chaque célébration, l'Église nous propose toujours la parole de Dieu, cette parole efficace, cette parole nécessaire. Et encore aujourd'hui, nous découvrons à travers cette parole un thème qui nous est donné, ce thème important, celui du pardon. La nécessité de pardonner, et nous essayons, n'y arrivons pas toujours. Et c'est là où les lectures nous aident à comprendre combien ce pardon est l'œuvre de Dieu en nous, combien il faut apprendre à recevoir le pardon pour pouvoir le donner. Alors, que voit-on justement dans cette première lecture qui nous est proposée ? Sirac le Sage, 3e ou 2e siècle avant Jésus, connaît une situation un petit peu difficile puisque le judaïsme souffre de la présence de l'hellénisme et il comprend qu'il faut donner au peuple le courage en se convertissant et en recherchant à rejeter la vengeance pour vivre le pardon, parce que le pécheur qui s'obstine dans la rancune et la colère éprouvera la vengeance de Dieu. Et il donne ainsi l'attitude qui nous permet de vivre le pardon. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière, tes péchés te seront remis. Se reconnaître pécheur soi-même, c'est devenir capable de recevoir le pardon de Dieu et découvrir alors combien Dieu nous donne le pouvoir de pardonner. C'est la demande que nous retrouvons d'ailleurs dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En effet, si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? Comment peut-il découvrir la toute-puissance de la miséricorde de Dieu ? Sois indulgent pour qui ne sait pas. C'est ce que dira Jésus sur la croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il témoignera alors de cette capacité infinie de Dieu à pardonner, ce dont témoigne justement l'Évangile de ce jour. Un Ancien Testament qui nous ouvre à la plénitude de la découverte de Dieu, qui est un Dieu plein de miséricorde. Après avoir recommandé la charité fraternelle et le devoir d'avertissement vis-à-vis des membres de la communauté, dans l'Évangile, Jésus invite ses disciples à aller plus loin, jusqu'au pardon sans limite et sans retour. Substituons ainsi le pardon à la vengeance. Dans l'Évangile, à la question que pose Pierre à Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner ?» Jésus répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Rappelons-nous que le chiffre 7 est un signe de plénitude. Donc 70 fois 7 fois, la réponse de Jésus est nette. Il n'y a pas de limite au pardon. En plaçant la parabole du débiteur sans pitié, l'évangéliste signifie que l'essentiel n'est pas de se demander quelle peut être la limite du pardon, puisque le Seigneur vient nous dire qu'il n'y a pas de limite, mais de simplement commencer par pardonner. Car la raison fondamentale pour laquelle nous devons pardonner, c'est que nous sommes nous-mêmes pardonnés par Dieu. Par la passion de son Fils, par le baptême que nous avons reçu, nous savons que par le sacrement de la réconciliation, le pardon nous est donné, combien notre vie en est transformée. Tout homme est pécheur, cependant, comme je vous le dis, Dieu pardonne et les Écritures en témoignent, puisque la passion rappelle ce don de la vie du Fils de Dieu, afin de pouvoir recevoir le pardon. Et c'est ce que témoigne la parabole que nous donne Jésus. Le roi, c'est-à-dire Dieu, remet la dette à un débiteur, une somme immense, 10 000 talents, alors que ce dernier exige le remboursement de simplement 100 petites pièces d'argent. Je rappelle qu'un talent, c'est 30 kilos d'argent. Alors, vous multipliez, vous voyez le poids, vous voyez la somme. C'est immense, une somme immense. Ainsi, le débiteur, en refusant la miséricorde à celui qui demande ses 100 petites pièces, anéantit celle qu'il avait reçue du roi. En refusant de pardonner, pour nous-mêmes, nous sommes dans cette même situation du débiteur, car nous devenons ainsi incapables, parce que nous refusons de donner le pardon, de le recevoir de Dieu. En remettant la dette au débiteur, le roi voulait mesurer la disposition intérieure, la capacité de celui-ci d'aimer et de pouvoir, juste après, pardonner comme le roi l'a fait. Nous apprenons aussi une chose importante dans cet évangile, puisque avant la question était dit, pour la réponse de Jésus, le royaume des cieux est comparable à un roi. Donc cette parabole va plus loin que le pardon. Elle nous décrit ce qu'est véritablement le royaume de Dieu. Car Dieu instaure ce pardon, ce royaume, non pas dans un futur, mais dans la réalité de chaque jour de nos vies, quand, comme le débiteur, pour la première partie, nous nous rapprochons du Seigneur et nous lui demandons pardon, tombant à ses pieds, reconnaissant notre misère. Et si nous accueillons ce pardon, nous voyons ainsi se réaliser dans notre vie ce relèvement qui s'opère par la toute-puissance de Dieu. En faisant l'expérience du pardon dans notre vie, alors nous devenons capables de le donner. Et nous retrouvons saint Paul, justement, dans la deuxième lecture, qui nous disait « Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Mort au péché par le baptême, recevant dans Dieu la grâce du pardon, en pardonnant, nous devenons les témoins de la vie même reçue de Dieu que nous transmettons. » La première lecture nous rappelait qu'il nous fallait rejeter la rancune, la colère et la haine. En ce jour où nous célébrons Notre-Dame de Pitié, il est bon de voir que l'attitude de la Vierge, comme d'ailleurs de Saint Joseph, est bien différente de la nôtre, car très souvent, vis-à-vis de nos relations avec les autres, la moindre de petites difficultés nous met en colère, nous donne de la rancune, ou alors on se retourne vers le Seigneur et on se dit « Mais que fais-tu ? Tous les ennuis qui me tombent dessus, tu n'existes pas. » Or, Marie témoigne justement d'une fidélité, d'une constance extraordinaire. Aucune rancune vis-à-vis de Dieu, aucune colère, et pourtant, elle en a subi. Naissance qui n'est pas Nazareth, on va à Bethléem. Départ pour l'Égypte. Joseph qui apprend que son épouse attend un enfant d'un autre. Marie qui apprend au temple que son cœur sera transpercé. De voir son fils lâché, trahi par ses amis. D'être seule à l'accompagner durant la Passion. De le voir jugé et mourir injustement. Qu'aurions-nous vécu dans la même situation que Marie? Aurions-nous eu cette attitude qui est la sienne d'une confiance totale à Dieu? Et c'est à Marie, que c'est vers Marie que Jésus se tourne avant de mourir pour nous la donner pour mère. Et Marie accepte de devenir la mère de ceux qui ont conduit à la mort de son fils. Les hommes d'Alia dominant, mais chacun d'entre nous puisque si le Christ est mort, c'est pour nous relever du péché, pour que chacun d'entre nous, nous puissions rentrer dans une vie nouvelle par l'offrande de la vie du Fils de Dieu. Alors, remercions la Vierge pour sa tendresse, sa délicatesse, celle qui, par son oui, son fiat, a accepté de venir la mère de Dieu, mais qui, au pied de la croix, a accepté aussi de nous recevoir pour mère, pour que nous puissions nous mettre sous cette protection de la Vierge. Alors demandons au Seigneur de savoir reconnaître combien Marie nous aime, combien, comme la collecte le rappelait, parce que Marie a eu compassion de son Fils, parce qu'elle a souffert devant celui qui offrait sa vie, elle est proche de chacun d'entre nous. Demandons au Seigneur de savoir la prier pour que, protégée de son manteau, tous les jours de notre vie, nous puissions, par le pardon que nous saurons donner parce que nous l'aurons reçu, témoigner de ce royaume de Dieu qui est installé dans chacune de nos vies parce que nous sommes aimés, parce que nous voulons aimer, en témoignant que l'amour est d'abord pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.